Chapitre 3. Après moins d'un an d'absence, Mademoiselle Raucourt était complètement oubliée. Certes, on ne pensait pas la revoir jamais lorsque le mercure annonça son retour. Elle devait son rappel aux dissensions intestines du tripot tragique. Les rivalités des Saint-Val et de la Vestris, ces tragédiennes ennemies, venaient d'éclater. La guerre était déclarée. La Comédie-Française, la ville et la cour étaient divisées en deux camps. Dans cette grande querelle, un des événements du XVIIIe siècle, personne ne resta neutre. Il fallait se déclarer. N'avoir pas d'opinion eût été du plus mauvais goût. Les lettres, les libelles, les justifications, les mémoires pour ou contre se succédaient sans relâche et tenaient Paris en haleine, tandis que les plus chauds d'entre les amateurs se répandaient dans les salons et dans les sociétés pour recruter des partisans. Le théâtre était le champ de bataille où les partis se donnaient rendez-vous et mesuraient leurs forces. Au début des hostilités, Madame Vestris eut l'avantage. Secondée par son amant, M. le duc de Duras, protégée par messieurs les gentilshommes de la chambre, elle réussit à faire exiler l'aîné des Saint-Val, prouvant bien ainsi la supériorité de son talent. Cette victoire fut sa perte. Le public, révolté de l'injustice, prit sous sa protection la sœur de la pauvre exilée. Les représentations de Mademoiselle de Saint-Val cadette ne furent plus qu'une longue suite d'ovations. La maîtresse du duc de Duras fut contrainte de se retirer devant la manifestation du mépris général. C'est alors que, désespérant de jamais reprendre son rang, Madame Vestris intrigua pour faire rappeler celle qui lui devait une partie de ses malheurs. Elle devait être écrasée, elle le savait, par cette tragédienne illustre, mais elle comptait bien que sa rivale serait écrasée du même coup, et c'en était assez pour sa vengeance. Certaine d'être soutenue, Mademoiselle Raucourt n'hésita plus à revenir. Elle ne comptait certes pas sur une réception triomphale, mais elle espérait que les rivalités d'autrefois seraient éteintes. Les haines de théâtre sont plus vivaces que cela. À son retour, toutes les portes lui furent fermées. C'était à qui ne recevrait pas la plus compromettante des femmes. Sans ressources, sans amis, elle ne savait où se retirer, lorsque Sophie Arnoux lui offrit sa maison. La reine Melpomène recueillit par la sublime Armide, quel spectacle touchant! C'était au moins un grand acte de courage et qui coûta cher à Sophie. Il lui coûta sa popularité. Elle fut sifflée à l'opéra et accablée d'injures. On calomnia sa bienfaisance, on attribua sa générosité aux plus honteux motifs. Amie dévouée avant tout, Sophie ne se laissa pas intimider. Non contente de donner l'hospitalité à l'actrice persécutée, elle sut intéresser à son succès et ses nombreux amis et ses amants. Pour plaire à sa maîtresse, M. le prince des Nains devint tout à coup un des plus chauds partisans de Mademoiselle Raucourt. Pour elle, il intrigua, il abusa de ses influences, il mit en campagne tous les gens qui dépendaient de lui. Pour Mademoiselle Raucourt, la maison hospitalière de Sophie fut le refuge pendant la tempête. Elle y attendit les événements, se prépara à la lutte, organisa la résistance. Déjà, la guerre contre elle commençait. Les premiers coups partirent de la Comédie-Française, où dominaient Auger, Molé, Montval et d'Azincourt. Messieurs les secrétaires, qui avaient rayé Mademoiselle Raucourt de leur cadre, prétendirent maintenir l'exclusion. Ils déclarèrent que leur statut s'opposait à ce qu'elle rentra. Ils représentèrent que l'inconduite et le libertinage de cette actrice nuisaient à la considération de leur compagnie. Ils en furent pour leurs démarches, leurs délibérations, leurs pétitions et leurs intrigues. Monsieur de Duras était le maître, il le prouva. Sa protégée était aussi la protégée de la reine. Un ordre formel du roi fit taire toutes les résistances, leva tous les obstacles et Mademoiselle Raucourt fut réintégrée dans sa demi-part de sociétaire. C'est le rôle de Didon que choisit la tragédienne pour sa rentrée. Didon, souvenir de son apothéose. Ce soir-là, comme pour ses débuts, la foule se pressait autour du théâtre. Comme autrefois, on prit les portes d'assaut. Mais que les temps étaient changés! bien avant le lever du rideau, de tous les côtés de la salle partaient des coups de sifflet et des appels. « Le parterre est à l'orage, » disait Brizard à son élève. Didon parut et l'orage éclata. Le parterre, indigné qu'on osât lui imposer une actrice, se leva comme un seul homme. Le tumulte était incroyable. Pauvre comédienne, les cris, les injures, les vociférations, les huées détonnaient et se croisaient comme un feu roulant de mousqueterie. On l'accablait des plus grossières invectives et des épithètes les plus sales. Quelques amateurs charitables qui voulurent reprendre sa défense pensèrent être mis en pièces. « Il a été impossible, dit un compte rendu, d'entendre un seul mot de son rôle. On laissait parler les autres acteurs, mais dès que son tour revenait, les clameurs recommençaient. On soupçonne que les partisans des demoiselles de Saint-Val ne sont pas étrangers à cette fermentation. » Devant ce déchaînement de haine, Mademoiselle Raucourt songeait à se retirer. Madame Vestris, dont elle jouait la partie, et quelques bonnes amies, Sophie Arnoux en tête, l'encouragèrent à la résistance. D'ailleurs, M. le duc de Duras jurait qu'il aurait raison de l'opinion, comme il avait eu raison des comédiens. Son pouvoir n'allait pas jusque-là. On a beau être duc, grand cordon, gentilhomme de la chambre, bien en cour, la foule a ses volontés et ses caprices. Le parterre tumultueux de 1779 commençait à tenir en médiocre estime ses grands seigneurs d'antichambre et il saisissait avec bonheur tous les prétextes d'opposition. L'autocrate de la Comédie-Française ne gagna donc rien à mettre en cause la force armée. Tous les régiments ensemble n'auraient pas fait applaudir la Raucourt. Que la garde fût doublée ou triplée, les mêmes scènes de désordre se renouvelaient tous les soirs. C'est alors que Mademoiselle Raucourt eut la malheureuse idée de s'emparer du rôle de Phèdre, un rôle où elle a toujours été détestable. C'était donner des armes à ses ennemis. Ils en profitèrent. On était au temps des allusions, jamais public turbulent et passionné ne les saisit avec tant d'empressement. On retourna le rôle entier contre l'actrice. Chacun des vers qu'elle prononçait lui était rejeté à la face comme une sanglante injure. Elle disait, par exemple, « De l'austère pudeur, les bornes sont passées. »« C'est vrai !» répondait le public furieux. « C'est vrai, il y a longtemps !» Elle disait encore, « Et moi, triste rebut de la nature entière, et le cœur de ses ennemis de crier, « Oui, oui, à l'hôpital, le rebut !» Puis on lui prodiguait des applaudissements outrés et ironiques, on l'obligeait de recommencer pour rire de nouveau. Que de honte et quelles humiliations! Ni sa beauté, ni son titre de femme, dit Grimm, ne la protégeaient plus, et jamais le public ne poussa si loin l'oubli de sa propre dignité. C'est que le duc de Duras continuait à tout faire pour attiser cette exaspération. Sa maladresse égalait sa bonne volonté à servir Madame d'Estrys et, par contre, Mademoiselle Raucourt. Non content de tripler la garde, il emplit le parterre d'alguazils. On arrêtait les siffleurs et on les mettait en prison. Mais pour un qu'on expulsait, il en revenait 10 et c'était toujours à recommencer. Décidément, disait-on, la Comédie-Française est une véritable souricière. À cette lutte, M. de Duras perdit ce qui lui restait de popularité et de considération. Peu de choses, il est vrai. Dans les jardins du Palais-Royal, on distribuait à ceux qui se rendaient au théâtre ce petit parallèle. Le comte d'Estaing bat les Anglais pour leur faire reconnaître l'indépendance américaine. M. le duc de Duras emprisonne les Français qui n'applaudissent pas la Vestris et la Raucourt. Mieux conseillé, l'altière Melpomène n'essaya plus de braver l'orage. Même, elle tenta par sa soumission de regagner l'indulgence du public. Elle fit insérer dans le journal de Paris, 15 septembre 1779, une lettre bien humble où elle déclarait que, loin d'ambitionner les rôles de Mademoiselle de Saint-Val, elle n'était revenue que pour doubler tout le monde. Ce n'était pas assez de toutes ces tribulations. Ses créanciers la harcelaient plus que jamais, ameutés par la coterie qui voulait se défaire d'une rivale. Elle allait s'exiler encore pour éviter la prison, lorsque parut une déclaration du roi, dont la principale disposition était, de rendre libres et affranchis de toute saisie, arrêts ou oppositions, les gages et appointements des comédiens et des autres personnes attachées au spectacle, jusqu'à la concurrence des deux tiers, sauf pour la raison de nourriture et de logement. On ne manqua pas de dire que cette déclaration avait été faite expressément pour Mademoiselle Raucourt. Peut-être était-ce vrai. Deux ou trois fois déjà, affirme une correspondance, la reine a manifesté l'intention de payer les dettes de sa tragédienne favorite. L'énormité de la somme, au moins 300 000 livres, a toujours retenu sa majesté. On aura trouvé plus commode de s'en tirer par un édit qui ne coûte rien. Cette faveur qui sauvait Mademoiselle Raucourt lui attira une nouvelle tempête d'invectives. C'était à qui l'insulterait? Elle était destinée à être toute sa vie la fable et le scandale de Paris. Dora, le premier, avait salué son retour par une pièce de verre qui visait à la méchanceté. Ce persiflage, critique vraie et piquante des mœurs du jour, à ce qu'assure Bachaumont, était dédié à celle qui se reconnaîtra. Tout le monde reconnut la protégée du duc de Duras. « Toi, la plus belle des Didons, chaste un peu moins que Pénélope, en ce pays d'illusions, il n'est rien que nous ne fassions pour fuir l'ennui qui nous galope. Va, dans ce siècle de bon ton, les mœurs sont une singerie, les préjugés une chanson et la sagesse une folie. Nous sommes libertins à fond, par nous tu dois être accueilli. Nargue les sots, cède à tes goûts, donne aux femmes des rendez-vous, parle aux hommes philosophie, n'en aime aucun, trompe-les tous, sois gaie, insolente, jolie, et tu n'auras que des jaloux. » Mais ces vers ne sont rien encore, des piqûres d'épingle tout au plus. Mademoiselle Raucourt ne devait pas les sentir. Dora entend mieux le bouquet à Cloris que la satire. Dans 20 autres pamphlets, elle est bien autrement maltraitée. Pour voir comment on maniait l'injure au XVIIIe siècle, il faut lire, dans la vision du prophète Daniel, 18 octobre 1779, les portraits de la reine Melpomène et du prince des nains. Et l'on entendit crier « Place, place au prince des nains !» Et je regardais, croyant voir à la tête d'une troupe de pygmées un avorton rebut de la nature. Et j'aperçus un grand homme pâle et maigre, à l'œil bête, au rire niais, affectant un air d'importance, et quelle fut ma surprise quand je vis à travers son corps diaphane qu'au lieu de sang, une boue noire et empestée circulait dans ses veines. Et son cœur corrompu tombait en pourriture. Et il perça la foule, conduisant sur le poing une femme que je pris pour un homme, à sa démarche effrontée, à sa voix forte, à sa taille gigantesque. Elle jetait des regards lascifs sur toutes celles de son sexe et une voix cria « La voilà, celle qui a renchéri sur toutes les abominations dont les peuples se sont souillés. Et elle va renouveler ici les scènes de débauche et de luxure qu'elle y donna jadis. Mère, ne quittez pas vos filles. Amants, veillez sur vos maîtresses. Marie, prenez garde à vos femmes. Femmes, prenez garde à vos amants », aurait pu ajouter l'auteur de la vision. Mademoiselle Raucourt ne tarda pas à se rendre coupable du trait le plus noir qui se puisse imaginer. Moins d'un an après son retour, par un beau soir du mois de janvier 1780, elle quitta furtivement la maison hospitalière de Sophie Arnoux. Elle enlevait l'amant de cette amie si dévouée, de cette amie qui, pour elle, avait risqué et perdu sa popularité. Heureux prince des nains! Au moins, il fut récompensé d'avoir été traîné au même ruisseau que la tragédienne dans des pamphlets d'une énergie toute biblique. L'aventure se répandit vite et Versailles et Paris en rirent aux larmes durant une semaine entière. On blâmait Mademoiselle Raucourt, mais on ne plaignait pas Sophie. La demoiselle Arnoux est justement punie, conclut un moraliste. Elle méritait cette trahison pour avoir accueilli une femme qui est l'opprobre de son sexe. Cependant, les fugitifs, le prince et la comédienne, le conquis et le conquérant, ne savaient où cacher leur amour. Ils redoutaient Sophie, les traîtres, ils la savaient vindicative. Ne viendrait-elle pas troubler les douceurs de leur lune de miel? En cette extrémité, ils demandèrent asile et protection au prince d'Artois, qui, de fort bonne grâce, consentit à leur prêter sa petite maison de bagatelle. un palais de carton pour des amours de théâtre. Mademoiselle Arnoux ne se vengea pas, mais un jour vint où le frère du roi, peu généreux, réclama le prix de son hospitalité. Au grand désespoir de M. d'Aynin, Mademoiselle Raucourt paya. Hélas, que ne pouvait-elle payer ainsi tous ses créanciers? Les dettes, voilà le grand, le vrai malheur de Mademoiselle Raucourt. Ils sont toujours plus de 50 qui hurlent à ses jupes. Empêtrée dans un inextricable filet, sa vie est une lutte continuelle. Elle se défend, elle se débat, elle ruse. À quoi bon? On la rattrape toujours. Et jamais une idée d'ordre, jamais d'économie. Elle se croirait déshonorée si elle renonçait à ses prodigalités. Tout l'argent qu'elle peut se procurer ne lui sert qu'à faire de nouveaux emprunts. Qu'elle paie ce qu'elle doit aujourd'hui, elle sera demain tout aussi obérée. En 1780, par exemple, elle réussit à se libérer presque complètement. Eh bien, voici ce qu'on lit dans les mémoires secrets à la date du 16 décembre 1781. La reine Melpomène est abîmée de dettes plus que jamais. Le prince des nains, pour la soustraire aux poursuites de ses créanciers, a pris à son compte tous les meubles et effets de cette actrice, mais il est assigné à venir déclarer par serment chez le lieutenant civil si les actes de propriété dont il s'agit ne sont pas simulés. Que fit le prince des nains? Recula-t-il devant le serment? Parvint-il à l'éluder? Les chroniques sur ce point sont muettes, on peut donc croire qu'il ne devint pas faussaire par amour. Mademoiselle Raucourt se consolait alors avec les muses de toutes ses persécutions. Elle venait d'écrire un drame pour le théâtre français, Henriette, dont le sujet est emprunté à un ballet qu'elle avait pu voir à Varsovie lors de ses caravanes dans le Nord. Le 1er mars 1782, Henriette fut jouée et jamais chef-d'œuvre de Corneille ou de Racine n'attira pareille affluence. En dépit des cabales, la pièce eut du succès. Grimm qualifie bien le sujet de monstrueux, mais tout le monde ne fut pas de son avis. « Le premier acte a paru froid, dit Bachaumont, mais le second a excité de longs, de fréquents et de sincères applaudissements. Le troisième a été applaudi aussi, quoique pas avec autant d'enthousiasme. Les bravos s'adressaient moins au drame qu'à l'actrice-auteur. De l'aveu de tous, elle était charmante sous l'uniforme d'un soldat prussien. » Les critiques, on le pense bien, ne lui manquèrent pas. « Tout est germanique dans cette pièce, dit une gazette, le sujet, les mœurs, le costume et le langage. » Les ennemis de Mademoiselle Raucourt, qui n'avaient pas pu faire siffler Henriette, lui en contestèrent la paternité. Ils répandirent le bruit qu'elle n'était que le prête-nom de Monsieur du Rozoy. Les épigrammes s'en mêlèrent et, un soir, chez Mademoiselle Fanier, la belle amie de Dora, Chamfort, le marquis de Saint-Marc et le président d'Héricourt se cotisèrent pour rimer cette chanson qui, le lendemain, courait les rues sur l'air à la mode de « Mon père était pot ». Au théâtre, on vient d'annoncer une pièce nouvelle qui doit beaucoup intéresser. C'est d'un auteur femelle. C'est un histrion là du Cotillon qui prétend un nouvel être. Son cœur est usé, son goût est blasé, son esprit vient de naître. Pour de tels couplets, ce n'était vraiment pas la peine de se mettre à trois. Chansonnet, lui aussi, attaqua Mademoiselle Raucourt. Il n'est pas de réputation à laquelle cet homme-là n'ait donné son coup de dent. Mais il est impossible de citer la strophe qui lui consacra dans les ridicules du jour, non plus que deux ou trois épigrammes où la licence remplace l'esprit. Deux ans plus tard, mars 1784, Mademoiselle Raucourt obtint un vrai succès dans Le Jaloux de Rochon de Chabannes, une pièce qui fit fureur. Elle jouait le rôle de l'Amazone, qui est ensuite capitaine de dragons. Tout Paris courut applaudir sa désinvolture, son ton cavalier et ses façons aisées sous l'uniforme. Et Mademoiselle de Saint-Val cadette, qui avait de l'esprit, de s'écrier « Quel acteur que ce Raucourt !» Et quel dommage qu'elle s'obstine à vouloir jouer des rôles de femmes !»